Et ce matin, à ce sujet, nous allons poursuivre ensemble notre parcours que nous avons démarré depuis le début de l'année, à partir de la thématique, vous savez, les uns les autres. C'est un parcours qu'on a commencé parce qu'on a été motivé par ces mots du Seigneur. Des mots qu'on veut vraiment vivre ensemble, des mots qu'on veut inscrire dans notre cœur. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous verront que vous êtes mes disciples. Et ce matin, donc plus particulièrement, nous allons parler ensemble d'encouragement et d'édification. Je pense que nous avons tous déjà expérimenté dans nos vies l'encouragement. Et puis, nous avons sûrement tous malheureusement expérimenté aussi l'absence d'encouragement, le découragement. Mais à ce propos, cette semaine, j'ai reçu un petit message via Eliakim. Vous savez, Eliakim, c'est notre application qu'on utilise pour planifier et coordonner toute la vie de l'Église. Et bref, j'ai reçu un petit emoji avec une main qui fait coucou, comme ça, qui me rappelait que j'étais de prédication ce matin. Coucou, je te rappelle que t'es de prédication dimanche. Comme si j'allais l'oublier. Alors, je ne sais pas comment c'est programmé, mais ça m'a fait rire et ça m'a encouragé. L'encouragement, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est quelque chose de bon. C'est quelque chose de très positif. Je dirais même que c'est une grâce. C'est un don. En tout cas, c'est quelque chose dans nos relations que Dieu a créé comme bon. Alors, moi aussi, j'ai voulu essayer et j'ai fait une petite expérience en famille, véridique. J'ai proposé au cours d'un repas en famille que chaque membre de la famille puisse encourager une autre personne. La seule consigne, c'était d'encourager la personne pour quelque chose qu'elle fait déjà et pour les efforts visibles, en somme. Donc, Éléonore a encouragé Salomé pour la danse, Salomé a encouragé Clarisse pour les bonbons, et puis Amélie, à son tour, m'a encouragé pour la cuisine, parce que tu cuisines bien, mon chéri, donc je t'encourage à continuer. Et du coup, je ne sais pas si vous le voyez venir, mais tout naturellement, j'ai dit, bah, écoute-moi, ma chérie, je t'encourage pour le ménage, parce que tu le fais déjà tellement bien. Alors, messieurs, honnêtement, je vous déconseille de reproduire cela chez vous. Je peux vous dire que ça n'a pas du tout eu l'effet escompté. Alors, après l'échec cuisant de cette expérimentation en famille sur l'exhortation pour améliorer un petit peu l'ambiance à la maison, eh bien, je vais poser cette question pour nous ce matin. Pourquoi avons-nous besoin tous d'encouragement et comment nous encourager les uns les autres? Peut-être ça peut suivre à la vidéo, merci. Et pour ça, je vous propose de réfléchir à cette question à la lumière de deux passages dans le Nouveau Testament. 1 Thessaloniciens 5 et Hébreux 3. Vous allez voir, ce sont deux textes différents qui parlent à deux communautés différentes, dans deux contextes très éloignés à première vue, mais qui vont quand même se rejoindre pour nous parler d'encouragement ce matin et nous faire réfléchir. Allez, je vais les lire. 1 Thessaloniciens 5. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'apprécier ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent au nom du Seigneur et qui vous avertissent. Témoignez-leur une grande estime de l'affection et de l'affection à cause de leur travail. Vivez en paix entre vous. Nous vous le recommandons, frères et sœurs, avertissez ceux qui mènent une vie déréglée. Réconfortez ceux qui sont découragés. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, mais en toute occasion, recherchez le bien, dans vos rapports mutuels comme envers tous les hommes. Soyez toujours dans la joie. Priez sans cesse. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'action de l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Au contraire, examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. Et maintenant, dans Hébreux, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurerai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Et il y a deux derniers versets qui sont hyper importants. En effet, nous sommes associés à Christ, si toutefois nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début. Et cela aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés. Alors voilà, un premier texte dans Thessaloniciens qui nous transporte littéralement à Thessalonique, au milieu d'une communauté chrétienne qui rayonne, une communauté où la vie du Seigneur jaillit en abondance malgré un contexte difficile. Quelques mots sur ce contexte. C'est depuis la ville de Corinthe que l'apôtre Paul écrit cette lettre et ses recommandations. Paul, l'apôtre, voudrait bien visiter cette communauté de Thessalonique, mais il est retenu à Corinthe. C'est pourquoi il envoie deux lettres aux Thessaloniciens, et ce premier passage est issu de la première de ces lettres. Paul est empêché de les rejoindre. C'est pourquoi il a envoyé Timothée, son élève, son fils spirituel, prendre des nouvelles. Et Timothée, quand il est revenu avec des nouvelles encourageantes. Cette communauté chrétienne de Thessalonique, elle a été fondée lors du passage et des prédications de Paul dans cette ville aux alentours de 49 après Jésus-Christ. On estime que Paul n'a pu y passer que quelques semaines avant de devoir partir. Son temps sur place a été à la fois court et à la fois tumultueux parce qu'il y a reçu beaucoup d'hostilité de la part des Juifs de la synagogue et son départ a dû être précipité. Voilà, ce ne sont vraiment pas dans les meilleures conditions que l'évangile de Jésus-Christ a été prêché et annoncé. Mais malgré ce laps de temps très court et ces pressions violentes à l'encontre de l'apôtre, la parole a germé. Et ce sont des nouvelles encourageantes que Paul a reçues. C'est pourquoi Thessalonique, c'est pour nous ce matin à la fois une église encouragée et une église encourageante. Tu peux mettre la slide. Une église encouragée parce que voilà, Paul encourage parce qu'il en a le souci de cette communauté. Paul, il sait très bien que les pressions et le caractère hostile de certains chefs religieux, ben, ça ne s'est pas arrêté avec son départ de Thessalonique, bien au contraire. Et c'est pour ça qu'il va envoyer Timothée. La parole nous dit pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne soit ébranlé au milieu des tribulations présentes, pour vous affermir et vous exhorter dans votre foi. Et Timothée, en revenant de sa visite à cette communauté de Thessalonique, va donner des nouvelles encourageantes, certes, mais il va lui faire part d'un autre problème. Et ouais, il y a au sein même de l'Église des perturbateurs qui diffusent un mauvais enseignement. De sorte que dans l'Église, certains, ils sont arrivés à une mauvaise compréhension des temps. En fait, ils pensent tellement que les derniers temps sont imminents qu'ils vivent d'une manière déréglée. Pour comprendre ce que l'apôtre Paul entend par déréglé, il faut s'imaginer des personnes qui, sous l'influence de ces mauvais enseignements, eh bien, ces personnes ne travaillent pas. Elles vivent au crochet de la communauté. En fait, ces personnes vivent de manière déréglée. Elles sont tombées dans une forme de facilité. Et ces personnes se laissent vivre au motif de ben, « à quoi bon travailler et se donner du mal si le Seigneur revient demain ?» Nous, on se concentre sur l'essentiel. Et l'essentiel, ben, c'est d'attendre demain. Personnellement, moi, ça me semble plutôt un bon prétexte pour des paresseux. Mais je me dis que cette pensée oisive peut-être nous a traversé un jour aussi. Je me souviens que cette question, cette réflexion m'avait été faite par des ados de 10-12 ans. Et en fait, Vincent, si Jésus revient bientôt, alors à quoi ça sert de bien travailler à l'école ? Eh oui. Ce que Paul leur reproche, à certains finalement ici, c'est d'être dans un déni de réalité. Et si certains sont déjà d'ailleurs, j'ose dire, les yeux dans le ciel, mais les pieds aussi, eh bien cela, ça impacte fortement la communauté. On imagine facilement les tensions que cela peut générer. Si c'est toujours les mêmes qui mettent la main à la pâte, les mêmes qui se donnent du mal pour subvenir aux besoins matériels, les mêmes qui portent la charge du fonctionnement de la communauté, eh bien cela peut créer du découragement. Et je pense à notre Église, notre communauté, notre Assemblée chrétienne Centre Martin Luther King. Et je me dis que beaucoup qui portent cette charge chez nous ont besoin d'être encouragés aussi ce matin. On a de la chance d'avoir ces frères et sœurs qui sont généreux de leur temps et de leur énergie. Vous êtes d'accord ? Je pense aux équipes de ménage, aux équipes d'entretien et des travaux. Et je pense qu'on peut les applaudir pour les remercier ce matin. Vous êtes d'accord ? Voilà, je ne vais pas les citer parce qu'ils n'aimeraient pas, mais ils se reconnaîtront. Et puis d'autres, plein d'autres personnes qui se mettent au service de notre Église et qu'on ne voit pas. Des choses qui prennent beaucoup de temps, d'énergie, beaucoup de soucis, mais qu'on ne voit pas. Alors, voilà, je pense pas qu'on veut être une communauté qui crée du découragement parmi nous. Au contraire. Alors d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse sur le ménage. Justement, un nouveau fonctionnement a été mis en place cette année. Cette année, chaque groupe de maison, va se relayer pour faire à tour de rôle le ménage le dimanche après-midi. Il y aura un roulement, d'accord ? Si vous me suivez bien, ça veut dire que si vous n'êtes pas dans le roulement ménage, alors c'est que vous n'êtes pas non plus dans un groupe de maison. Alors si c'est le cas, ce n'est pas un souci. Ça sera juste l'occasion, pour moi ce matin, d'un double encouragement. Vous encourager à rejoindre un groupe de maison et à participer au roulement ménage de l'Église. Voilà, cette église de Thessalonique, elle est encouragée à tenir ferme au milieu des épreuves, comme elle le fait déjà. Et c'est pour cela qu'elle est aussi une église encourageante pour nous ce matin. C'est une église jeune dans son histoire, mais qui résiste aux pressions. C'est une église qui rayonne sur sa région. Paul en a tellement de bonnes nouvelles qu'il se réjouit à son sujet et qu'il en est reconnaissant à Dieu. Paul dit en sorte que vous êtes devenu un modèle pour les croyants. De la Macédoine et de l'Achaïe. Le bon témoignage de cette église se répand. C'est un modèle pour les croyants. C'est une église qui grandit, qui tient ferme, qui rayonne sur toutes les régions autour d'elle. C'est un sujet de fierté. Mais peut-être on peut se demander combien de temps cette période un peu bénie de croissance, elle a duré. Est-ce que la croissance, elle ne s'est pas essoufflée au bout d'un moment ? Est-ce que cette assemblée, elle a finalement tenu le coup, même après les lettres de Paul ? Eh bien oui. Nous savons, de sources fiables, par des écrits postérieurs à ceux de l'apôtre, que cette Église a continué d'impacter toute la région pendant des générations. Elle a continué sa croissance, elle a continué de rayonner. Et c'est important pour nous ce matin. Ça veut dire que la parole encourageante a porté du fruit. Et d'ailleurs, nous sommes encore au bénéfice de ce fruit ce matin. Amen. Et c'est au travers de cette Église que la parole nous encourage, nous ce matin, à notre tour. Alors, nous sommes encouragés, oui, mais pas n'importe comment. Nous sommes encouragés par un encouragement qui construit, un encouragement comme une clé de croissance humaine et spirituelle. Et c'est ça que je vais développer un petit peu. Parce que nous avons besoin de paroles, d'actes et de relations qui nous font grandir, qui nous valorisent, qui nous édifient vraiment. Malheureusement, je crois qu'on a tous fait la meilleure expérience d'avoir en face de nous quelqu'un qui, sous couvert de nous encourager, chercher en fait un petit peu à nous manipuler, à obtenir quelque chose de nous, vous savez, à se servir de nous. Ça commence par des paroles flatteuses, ouais, « t'es super là-dedans, t'es super dans ci », et puis ça finit par demander une petite faveur. Et ouais, on a tous connu ça. Autre chose, parfois l'encouragement, il est pavé de bonnes intentions, mais il n'est pas fondé sur une réalité qui est déjà là. Ce que je veux dire, c'est que en voulant sincèrement encourager un frère ou une sœur, à un service dans l'Église, par exemple, on peut maladroitement le conduire à dépasser ses capacités humaines ou spirituelles. On peut le mettre dans une situation délicate, voire décourageante. Et bien, cette situation, c'est du vécu pour moi. J'ai le souvenir douloureux d'un groupe de jeunes où j'ai été fortement encouragé à conduire la louange. Le souci, c'est que je ne l'avais jamais fait. Je n'étais pas formé, je n'étais pas préparé, je n'étais pas accompagné pour ce service. Et j'étais seul. Mais oui, vas-y, t'inquiète pas, tu sais jouer du piano, ça va bien se passer. C'est juste un petit temps de louange. Je t'encourage. Et bien, comme vous vous en doutez, non, ça a été catastrophique. Je n'ai pas réussi à aligner 3 accords, encore moins à chanter. Le track m'a envahi, j'étais bloqué, puis le temps de louange a tourné court. Bref, ça, c'est un exemple de mauvais encouragement. Mais la parole de Dieu, quand elle nous encourage ici, au travers des recommandations de Paul, c'est vraiment différent. Paul n'est ni hypocrite, ni flatteur. Il ne caresse pas dans le sens du poil. Il fait des recommandations avec honnêteté, avec bienveillance, avec sagesse, discernement sur ce qu'il voit déjà. À aucun moment, il cherche à manipuler. À aucun moment, il cherche son intérêt. Mais ce qu'il cherche, c'est à faire grandir pour la gloire de Dieu. Il cherche la croissance humaine et spirituelle de ceux dont il a le souci. Cet encouragement, ce n'est pas non plus une parole auto-réalisatrice. Ce n'est pas un encouragement auto-encourageant. Ce n'est pas parce qu'on le dit que ça se produit. Mais il est donné, si vous voulez, dans cette image de la construction, comme le ciment de notre édification, comme un matériau de base indispensable pour bâtir toute la maison. Pour cela, Paul va encourager dans plusieurs domaines. Et ces domaines, toujours dans cette image de la construction, on peut les voir comme différentes briques. C'est ce qu'on va voir. Donc, premièrement, dans le domaine des actes, prier sans cesse. La prière, c'est un acte fort dans lequel Paul nous encourage. Et vous savez, c'est exactement ce qu'on a fait là tout à l'heure, quand on a prié pour Ezra, pour Sloan, leur famille. La prière, c'est important. Soutenez les faibles. Réconfortez ceux qui sont découragés. Ça, c'est des actes concrets. C'est des actes de soutien mutuel. On sort la truelle et on étale le ciment parce qu'on veut construire. Nous avons besoin aussi d'être encouragés dans le domaine des paroles. Proverbe 16:24 nous dit « Des paroles aimables sont comme le miel. Elles sont douces pour le cœur, elles font du bien au corps. » Mais le psaume 57, il dit aussi « Leur langue est comme une épée acérée. » En fait, la langue, elle a un vrai pouvoir. Le pouvoir d'élever, mais aussi le pouvoir de détruire. Le pouvoir d'encourager, mais aussi le pouvoir de décourager. Je pense que la Bible, la parole, nous met en garde sur les paroles qui sortent de notre bouche. Et elle nous dit « Recherchez le bien dans vos rapports mutuels, comme envers tous les hommes. » Nous sommes encouragés à non pas cultiver des paroles dites par derrière, à ne pas suivre le monde dans ses critiques faciles. On est dans un monde, le monde des tweets, le monde des posts sur les forums, en fait dans le monde de la parole qui est balancée, la parole ciblée, c'est la parole qui pointe du doigt, qui accuse. Mais nous sommes encouragés à cultiver ensemble l'amabilité, le respect, l'honneur, ici et au dehors. Remercier Dieu en toutes circonstances. Alors voilà quelque chose qui n'est pas facile. Mais des paroles de reconnaissance, ça peut tout changer. Hier soir, on était ici, à la soirée New Breath. Je ne te demanderai pas à Mich de bien le prononcer, parce que tu l'as fait hier. New Breath, pour un temps fort d'encouragement et d'édification de notre jeunesse. Et justement, le dernier chant de la soirée, c'était ce chant d'exo. Vous savez, « Je suis né pour te louer ». ».« Je suis né pour te louer ». Et à la fin, les dernières paroles, c'est « Apprendre à te dire merci ». Apprendre à te dire merci. Oui, ça peut être un apprentissage. Ça peut être peut-être une discipline. Mais c'est tellement important de dire merci au Seigneur, à Dieu. Remercier le Seigneur pour mon Église, pour les frères et sœurs qu'il m'a donnés. Je crois que ça peut tout changer. Ça peut changer notre regard sur l'autre. Je crois que ça peut transformer beaucoup de situations. Des paroles de reconnaissance, mais aussi des paroles de vigilance, comme on l'a lu. Avertissez quand c'est nécessaire, quand il faut reprendre. C'est aussi une parole et un acte d'amour de se reprendre lorsque un de nous s'égare. Mais que tout soit fait avec amour, avec bienveillance, avec douceur. Les paroles encourageantes en Christ peuvent vraiment nous faire grandir. Et je voudrais juste le témoigner en deux mots. C'est ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. Tout à l'heure, je vous partageais une expérience un peu décourageante qui m'a marqué. 20 ans après, je m'en souviens encore. Mais aujourd'hui, c'est aussi grâce à des paroles sages, des paroles bien discernées, des paroles encourageantes, eh bien, que je peux me tenir devant vous, derrière la chair, et vous servir en apportant la parole. Parce que plein de personnes ont jalonné ma vie chrétienne et elles continueront de le faire. Et je les remercie pour ça parce qu'elles m'ont vraiment encouragé quand c'était important, quand j'en avais besoin. Et puis, on a besoin d'être encouragé dans le domaine des relations. Témoigner de l'affection, vivez en paix, appréciez. Et si on remarque bien, toutes ces recommandations sur les relations, ça arrive au début déjà, des recommandations, mais presque spécifiquement, ça concerne que la relation responsable-communauté. En fait, dans le contexte de Thessalonique, les faux docteurs, ils essayaient de saper la vie de l'Église en remettant en cause l'autorité et les enseignements de ceux qui étaient en responsabilité. Et je crois que la relation responsable-communauté, c'est un point de vulnérabilité pour nos assemblées. Je crois que c'est un point stratégique et qu'on est encouragé à être vigilant, à ce que le lien de la paix soit préservé. Vivez en paix entre vous. C'est-à-dire, ne laissez rien entraver vos bonnes relations. Ne laissez rien se mettre entre vous et vos responsables. Aucune amertume, aucune tension, aucun non-dit, aucune incompréhension. Parce que sinon, c'est tout l'édifice de la communauté qui est menacé. C'est pour ça qu'il est nécessaire que nous cultivions des relations de qualité, que nous fassions preuve de discernement et que nous recherchions la paix. Alors voilà, toutes ces recommandations que j'ai essayé de mettre en lumière sur la parole, les actes, les relations, c'est vrai que c'est super, mais on peut craindre quelque chose quand même, c'est que cela reste du domaine des efforts, que ça soit juste une question d'effort humain, comme un idéal à vivre, mais finalement un truc un peu utopique, un peu inaccessible, qu'on n'atteindra de toute façon jamais. Eh bien, c'est vrai que sans quelque chose ou sans quelqu'un en particulier, nous risquons de vite nous épuiser, à vouloir tout faire nous-mêmes. Et le risque, c'est que malgré notre bonne volonté, nos encouragements restent stériles. C'est pourquoi nous avons besoin d'une personne indispensable. Et je vais faire une petite parenthèse pour introduire ce point. Encouragement en grec, c'est parakletos. Ok ? Parakletos. Et vous savez que c'est le même mot qui est utilisé à plusieurs endroits de la Bible pour désigner aussi le Saint-Esprit, qui est appelé aussi le paraclet. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ? Parakletos, encouragement. Paraclet, Saint-Esprit. Ça veut dire, pour nous ce matin, que le Saint-Esprit, c'est l'encourageur. C'est même, et je remercie la personne qui m'a encouragé en ce sens, c'est même l'encourageur en chef. Nous avons besoin de l'Esprit-Saint pour un encouragement qui conduit à une édification solide. Pas une édification juste de façade. Pas juste être gentil entre nous, en faisant des courbettes, mais on veut des cœurs bien fondés. Des briques bien emboîtées, bien scellées entre elles, bien cimentées. Et voilà, c'est pourquoi, à la fin du passage, Paul nous dit, n'éteignez pas l'esprit. La parole nous dit, n'éteignez pas l'esprit, c'est-à-dire ne fermez pas les oreilles à l'encourageur. Et ça sera vraiment mon encouragement principal ce matin. Parce qu'il y a un petit point sur lequel je ne suis pas revenu, c'était soyez toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie, c'est, je trouve, une des recommandations les plus difficiles que la parole nous fait là. Être encouragé pour être continuellement dans la joie, ce n'est pas toujours facile. Mais je pense qu'avec l'encourageur, avec l'aide du Saint-Esprit, on peut se mettre en marche. On peut fixer les yeux plus haut, plus loin. Et peut-être, petit à petit, commencer d'abord à remercier Dieu, puis plus prier, puis après être dans cet état d'esprit, hein, d'être dans la joie. Voilà. Examinez toute chose, retenez ce qui est bon. Gardez-vous de ce qui est mauvais, sous quelque forme que ce soit. L'encourageur, il est indispensable parce qu'un jour, les problèmes arrivent. Même si tout va bien, un jour, les épreuves peuvent s'accumuler. Ce n'est pas pessimiste hein, ce que je fais, je ne suis pas fataliste, hein, pas du tout. Mais il peut arriver qu'on se retrouve dans nos vies à traverser un désert. Et le désert, c'est justement le contexte du deuxième texte qu'on a lu tout à l'heure, et dont je vais rappeler les premiers versets. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. N'endurcissez pas vos cœurs. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour le peuple hébreu dans le désert, car leur cœur s'est endurci. Ils se sont révoltés, ils se sont égarés. Après la libération d'Égypte, et Paul nous a introduit avec ce contexte ce matin. Le peuple, malheureusement, il est devenu hermétique à la parole de Dieu dans le désert. En fait, dans un contexte difficile et éprouvant, comme celui d'un désert, il a commencé à regarder en arrière. Il a commencé à se dire que l'Égypte, même s'ils avaient été esclaves, eh bien peut-être, finalement, ce n'était pas si mal. C'était mieux que la condition qu'on vit actuellement. Et ce qu'a fait le peuple, c'est qu'il a commencé à ruminer. Il a commencé à regarder en arrière et à ruminer. Est-ce que cela nous arrive parfois, et je m'inclus dedans, de ruminer, de regarder en arrière et de commencer à imaginer que si, avec des si, notre situation serait peut-être meilleure. C'est ce que le peuple de Dieu a fait à ce moment-là, dans le désert. Alors que Dieu les a encouragés, parce qu'il les a délivrés de manière spectaculaire, qu'il a tracé un chemin, qu'il leur a fait une promesse. C'est fort ce qu'ils ont vécu. Eh bien, ils ont commencé à rentrer dans la rumination, à se plaindre. Et là, ils sont rentrés dans quelque chose que j'appelle la spirale de découragement. Rumination, comparaison, plainte, endurcissement. Puis, finalement, au bout du bout, c'est la ruine. C'est la ruine parce qu'en fait, ils n'ont pas atteint la destination promise que Dieu avait prévue. Ils ont été privés de ce lieu de repos que Dieu leur avait prévu. Un cœur qui s'endurcit, qui rumine, ce cœur n'écoute plus l'esprit. C'est ça qui se passe. Donc, s'il n'écoute plus l'esprit, il ne peut plus être encouragé. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il s'endurcit encore plus. Il s'expose encore plus à la ruine. C'est ça la spirale du découragement. Et je crois que l'esprit simplement nous met en garde ce matin à travers ce passage. Un cœur qui s'endurcit, il rumine et s'expose à la ruine. Le cœur qui tombe dans cette spirale de découragement ne va pas bien. Il ne peut pas aller bien. Il rumine, n'écoute plus. Ou alors peut-être qu'il écoute, mais il n'écoute plus la bonne parole. Il n'écoute plus l'encourageur. À la place, il écoute peut-être autre chose, une parole à laquelle il se laisse prendre, une parole qui le décourage. Je fais une petite parenthèse. Je suis tombé récemment sur deux faits d'actualité qui m'ont vraiment marqué et que j'avais à cœur de vous partager. La première chose, c'est les chiffres inquiétants de la santé mentale de nos jeunes en France. Juste un petit chiffre, plus de 30% des lycéennes, déclare avoir eu des idées suicidaires dans l'année. C'est 17% des garçons. Si on leur demande s'ils considèrent qu'ils ont un problème de santé mentale, s'ils sont déprimés, c'est presque la moitié qui déclare que oui. Ça, c'est un premier fait. Puis un autre fait, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de ce procès, il y a des parents qui sont en train de mener un procès contre une société en ce moment qui développe une intelligence artificielle. D'accord. En fait, le fils de ses parents, de ces personnes, en rentrant en dialogue avec cette intelligence artificielle, est rentré dans une spirale morbide. Cette spirale de découragement, elle s'est traduite en spirale de mort. Il a mis fin à ses jours. Ils ont publié rendu public les échanges, les dialogues. Ça avait froid dans le dos. À quelle parole sont exposés nos ados, nos enfants? Est-ce que c'est une parole qui les tire vers le fond quand ils sont dans le désert de leur adolescence difficile? Est-ce que c'est une parole décourageante? Ou est-ce que c'est une parole encourageante qui relève et qui fait grandir? Et puis, voilà, je finis la parenthèse, nos cœurs d'adultes aussi, à nous, ils sont malmenés. Des déserts, malheureusement, on en traverse tous. Une dépression, un deuil, une maladie, une souffrance physique, mentale, quand ça ne se passe pas du tout comme on a prévu. Et voilà ce que nous dit la parole. Aujourd'hui, ce matin, si vous entendez sa voix, n'endurcissez plus vos cœurs. La parole de l'encourageur est vitale. Le Saint-Esprit est vital. Mettons-nous à son écoute. Laissons-la nous conduire, nous réconforter et nous relever. Parce qu'elle va nous relever. Et je finirai avec ça. Le Saint-Esprit voudra toujours, toujours nous faire sortir de cette spirale de découragement. Il voudra toujours, toujours nous faire grandir et tenir ferme en Christ. Ce même Saint-Esprit, cet encourageur, nous fera toujours lever les yeux pour regarder à Christ. Il nous conduira toujours à fixer, bien garder les yeux sur lui et à se laisser toucher par son cœur à lui. Saint-Esprit pointe toujours vers le cœur du Seigneur. Parce que le cœur de Jésus, lui, c'est pas comme nous. Lui, son cœur, il est unique. C'est un cœur qui ne s'est jamais endurci. Pourtant, ce cœur-là, le cœur de Jésus, il a été vraiment malmené aussi. Il a été malmené et finalement, il a été conduit sur une croix. Et puis sur cette croix, ce cœur tendre, il s'est arrêté de battre. Le poids de notre péché était tellement lourd, c'était tellement pesant, que Jésus-Christ est allé jusqu'à la mort pour nous. Son cœur s'est arrêté, malmené, mais pour un temps. Le cœur de l'homme est tellement dans un état critique qu'il a fallu que Jésus donne son propre cœur pour arrêter le pouvoir du péché sur nos vies. Le Seigneur nous aime tellement qu'il a offert son cœur tendre et doux en rançon de nos cœurs durs et froids. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin. C'est qu'il s'est relevé de la mort. Il est revenu à la vie. Et son cœur aujourd'hui, il bat à nouveau pour nous. Et il bat pour toujours pour nous, qu'il aimons. Et voilà, je crois que Dieu nous encourage encore ce matin à ne pas exposer nos cœurs à toute parole, mais à le laisser prendre soin d'une autre. Il a montré comment il prenait soin de nos cœurs et nous appelle maintenant à nous encourager d'une manière qui reflète le sien. C'est quoi le cœur de Jésus? Le cœur de Jésus, il est patient, désintéressé. Il réconforte les découragés. Il soutient les faibles. Toujours dans la joie pour nous. Intercédant sans cesse pour nous. Il nous donne la paix. Il nous donne de l'affection. Il nous donne son amour. C'est ça son cœur. Ce n'est pas exhaustif. Alors à l'écoute de l'encourageur, à l'écoute du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, je crois que nous voulons vraiment nous encourager les uns les autres avec un cœur qui reflète celui de Jésus, afin de tenir ferme ensemble et de grandir ensemble. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est Éphésiens 4. Amen. Alors je propose d'avoir un petit temps de prière. Je vais prier. Puis on va laisser germer aussi peut-être toutes ces paroles d'encouragement qui veulent aller nous faire, qui veulent nous soigner, nous guérir, nous faire aller plus loin avec le Seigneur. Seigneur Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, que ta parole encourageante attendrisse mon cœur. Que je puisse encourager à mon tour, à la manière dont tu encourages. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour les cœurs découragés, que tu puisses maintenant les réconforter. Seigneur, je te prie pour ceux qui n'osent peut-être pas encourager,
par peur de mal faire. Seigneur, que tu puisses les inspirer et le conduire à l'exemple de ton amour, Seigneur. Seigneur, conduis-nous, Jésus. Seigneur, je te prie pour les cœurs troublés, les vies fissurées, fragilisées, afin que tu leur accordes ton soutien et ta restauration complète. Et Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne restaurer, renouveler, encourager puissamment nos vies dans le nom et la parole de Jésus. Seigneur, nous voulons tenir ferme, confiant dans ta parole, encouragé par ta grâce. Et ensemble, nous pourrons alors être non pas un peuple de cœur endurci et froid, mais Seigneur, on a le désir d'être une maison bien édifiée, de cœur brûlant. Seigneur, conduis-nous pour qu'on soit une maison à ta gloire, une maison qui rayonne où ta vie jaillit en abondance. Amen.